Fréquence Mistral s'est rendue à la conférence de presse de la Confédération paysanne dans le cadre des mobilisations agricoles. La conférence a commencé par une présentation de la GAEC des ânes, qui est donc une ferme avec un modèle de fonctionnement un petit peu particulier. Nous laissons la parole à Yannick.
Aujourd'hui, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on bosse ensemble et on le ressent vraiment dans notre quotidien. Le gros défi qui s'est mis en place, c'est comment sortir un salaire pour chacun sans devenir forcément plus gros, faire plus d'investissements et rentrer dans la spirale qui finalement nous plonge tous. On a trouvé des solutions en réinternalisant les coûts. Donc par exemple, on a construit une pépinière pour ne plus acheter les plants à des professionnels, mais du coup nous donner du travail et du coup nous fournir un revenu supplémentaire.
Vous faites de l'autoconstruction, etc.
Que nous, pour nous équiper, on a suivi des formations pour nous autonomiser dans le bricolage. On a pu construire des machines agricoles à moindre coût en fait, et qu'on peut maintenant réparer parce qu'on a appris à souder et qu'on a accès aux plans qui sont en libre-service grâce à l'atelier paysan. Et puis aussi, on a vachement développé la vente directe, et c'est ça vraiment notre force principale.
Vente directe, alors depuis le début, effectivement, on a commencé sur les marchés. On a fait le choix de vendre vraiment localement, donc on est sur un périmètre de 40 km en réalité. On est sur 3 marchés semaine, 3 AMAP. Et on trouve petit à petit, voilà, ça fluctue, mais on arrive vraiment à écouler tous nos produits. Depuis le début, c'est de conserver le moins possible. Donc en fait, on a nombreuses récoltes chaque semaine pour vraiment apporter du frais et nous faire la différence avec ce que l'on trouve sur les ventes, sur grande distribution et autres. Je vous disais, c'est un petit peu cet équilibre que l'on trouve. On se remet aussi toujours en question sur la manière dont on cultive. Donc on avait parlé des outils avec l'atelier paysan. Donc c'est vraiment des outils qu'on réfléchit par rapport à notre format. Diminuer notre impact en fait sur le sol, parce qu'on travaille très bien avec les engrais verts, on sait faire une agriculture, mais on est toujours à retourner nos sols, et là on s'aperçoit que d'année en année en fait on recharge bien nos sols, on arrive à avoir moins d'impact. On essaie voilà aujourd'hui aussi de faire des économies sur énergétiquement en gasoil pour le travail du sol. Et puis avoir des couverts, là on vient d'introduire en fait un petit poulailler qu'on va faire tourner sur nos jardins. Et voilà, on trouve un peu cet équilibre grâce à ça, quoi.
Plus largement, là on a un peu l'illustration des principes de l'agriculture paysanne. Alors l'agriculture paysanne, c'est pas un label, c'est des principes. Et parmi ces principes, il y a l'autonomie. On redonne de l'autonomie aux paysans, donc l'autonomie de décision. On voit qu'ils ont choisi, ils ont pris des choix qui leur sont propres et qui correspondent à leur ferme. C'est aussi garder la valeur sur le territoire. Là, ils ont dit, ben voilà, on s'est réapproprié la valeur qui sortait de la ferme pour acheter soit des engrais, soit acheter des matériels, soit acheter des plants. Et en fait, toute la valeur qui est gardée sur la ferme, c'est de la valeur qu'on peut garder sur le revenu ou qu'on peut redistribuer aux citoyens parce que finalement, on produit pour moins cher. Ils se sont réappropriés aussi l'autonomie par rapport au prix, parce que quand on vend en direct, alors effectivement, on a des citoyens en face de soi, on ne peut pas vendre à n'importe quel prix, mais on peut ajuster les prix, et on a discuté un peu en amont, et comme on l'a dit, on maîtrise les prix et on maîtrise les coûts. Par contre, il y a 85% de l'alimentation, elle circule par les grandes surfaces, les grandes et moyennes surfaces, et elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre là où c'est le moins cher, quoi. C'est un des soucis... entre des petites fermes et des fermes qui deviennent plus, qui ressemblent plus à des industries qu'autre chose, c'est que, par exemple, là, la main-d'œuvre, ici, si c'est embauché sur le champ des ânes ou sur ma propre ferme, c'est une relation directe de salariat. Ferme, et même il y en a ici dans le 04, hein, qui bascule sur de la prestation de service. Donc, ils emploient, eux, ils ne sont pas employeurs, ils payent juste une prestation de service à une société qui va amener des travailleurs. Et du coup, l'agriculteur proprement dit ne maîtrise plus qui travaille et à quelles conditions. Et voilà, c'est le glissement de la concurrence sur le social. Et ça, malheureusement, ça ne réapparaît pas beaucoup dans les revendications. Et bien souvent, on demande à se mettre au même niveau, d'enlever la concurrence déloyale. J'aimerais bien que ce soit dit plus souvent, que ce soit un nivellement par le haut et pas par le bas.
Le modèle présenté est ici très particulier et on voit la viabilité économique. On entend aussi parler beaucoup de la question de la transmission des fermes, qui sont parfois beaucoup trop grosses pour être transmissibles. Yannick, pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors pour pouvoir transmettre des fermes, il faut qu'elles soient transmissibles. Ça a l'air bête, mais c'est quand même un peu la base. Le problème, c'est que ce que je disais tout à l'heure, l'augmentation de volume, donc on agrandit les fermes, on se retrouve avec des fermes qui sont trop volumineuses, avec trop de capital et qui deviennent intransmissibles. Donc il faut déjà agir là-dessus en premier lieu. Alors après, face à des fermes intransmissibles, quelles sont les propositions du gouvernement? Alors effectivement, il y a des propositions qui sont entendables par tout un chacun, agriculteurs, paysans et paysannes, éleveurs. C'est effectivement faciliter, alors c'est en plus c'est l'extrapolation du travail qui a été fait par la Chambre 04, c'est-à-dire de travailler sur la transmission bien en amont de l'âge de la retraite, c'est-à-dire commencer à travailler, à identifier les fermes transmissibles et les gens qui partent à la retraite 5, 6 ans ou 7 ans avant, parce que c'est une transmission et un arrêt d'activité, ça se prépare autant qu'une installation. Donc ça, effectivement, ça va dans le bon sens. Après, on a quand même eu des fuites sur la loi d'orientation agricole de Marc Fesneau qui nous inquiète. Donc il y a, par exemple, la possibilité d'introduire du capital financier dans les fermes pour aider à la reprise. Parce qu'effectivement, il y a des fermes qui ont un capital qui dépasse le million d'euros. Pour un jeune agriculteur non issu du milieu agricole, ça peut commencer à être compliqué, surtout quand on voit le taux de rentabilité qu'il y a derrière. On revient sur le revenu. Donc effectivement, c'est une possibilité contre laquelle on s'érige, de faire rentrer du capital financier dans les fermes, ce qui fait qu'on perdrait encore un peu plus la main sur notre outil de production. Donc ça, c'est une des solutions ultralibérales proposées par le gouvernement. Une autre solution, c'est pour ne pas montrer un chiffre trop négatif et trop noir sur la perte des actifs agricoles, c'est par exemple de mélanger dans la même comptabilisation les actifs non salariés, que sont les exploitants agricoles et les paysans et les paysannes, et les salariés agricoles. On peut prendre juste pour exemple la ferme-usine des 1000 vaches qui a capoté parce que en fait elle était plutôt basée sur une rentabilité énergétique de production d'électricité et de biogaz. Donc on a réussi à la faire capoter, mais grosso modo là c'était sur 1000 hectares, je ne sais plus combien ils étaient. En tout cas, prévu 1000 vaches, c'était des salariés, c'était pas des exploitants agricoles. Des salariés à bas coût, puisque du coup, on est sur un système de process industriel. Donc on peut changer, il n'y a pas besoin de savoir-faire, on a des salariés interchangeables. Donc le tour de magie, ça serait effectivement de mélanger les actifs non salariés, donc les paysans, avec les salariés. Et on en parlait tout à l'heure, là, sur les filières fruits et légumes, effectivement, il y a beaucoup d'actifs agricoles, mais il y a de moins en moins de paysans. Donc voilà, des orientations vers lesquelles on s'érige. Les solutions, effectivement, c'est des fermes autonomes, comme ici, où on n'est pas obligé d'investir dans du matériel à 100 000 euros, puisqu'on le fabrique soi-même, parce qu'on est autonome au niveau technologique, parce qu'on est autonome au niveau des intrants. Et du coup, voilà, nous, on réclame 1 million de paysans. On peut aussi partager des fermes intransmissibles, on peut aussi les réorienter. Et on a des exemples de fermes laitières, par exemple, dans l'Ouest, qui fonctionnent très bien. Ils se tirent un revenu, ils ont un week-end sur deux parce qu'ils sont en association, ils ont deux semaines de congés payés, etc. Il n'y a pas de repreneur. Ou alors, il y en a qui arrivent et qui disent « Mais moi, je ne veux pas une ferme comme ça, moi, je veux juste être paysan boulanger sur 15 hectares. » Donc même sur des fermes de la Conf, il y a aussi des nouvelles demandes et de nouvelles visions un public nouveau qui débarque, et je pense que c'est ce mouvement qu'il faut accompagner et pas le mouvement de concentration des fermes pour appliquer une agriculture de type industriel qui se passerait des actifs. En fait, on est le dernier secteur primaire. Moi, je me souviens à l'école, j'avais appris le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc effectivement, le secteur tertiaire a vraiment pris de l'ampleur. Secteur secondaire, on sait qu'on a une désindustrialisation de la France, donc de moins en moins d'ouvriers. Et secteur primaire, les mineurs, on sait ce qu'ils sont devenus. Et en fait, on est les seuls derniers à produire réellement de la richesse sur le territoire, des richesses de base. J'ai l'impression qu'on nous applique un plan un plan social similaire à celui des mineurs il y a 50 ans. On l'a vu, 1,2 million en 90, 400 000 maintenant, enfin moins de 400 000. Voilà, donc... pour réussir à voir à travers les orientations du gouvernement.
Benoît Daton, paysan boulanger, vous êtes un jeune agriculteur néo-rural qui vient de s'installer. Pouvez-vous nous faire un retour d'expérience sur votre installation? Quels obstacles avez-vous rencontrés?
Alors Benoît Daton, je suis paysan boulanger. Et je pense qu'aujourd'hui, l'accès au foncier, c'est le principal nœud pour s'installer en agriculture, hein, quel que soit le... Je m'installe hors cadre familial, donc c'est-à-dire que je ne reprends pas une ferme familiale. Et, Et je suis heurté à, comment dire, ben, au fait que souvent les terres, ça m'est arrivé il y a 2 ans, hein, j'avais candidaté sur du foncier, une 20aine d'hectares, où je me suis retrouvé face à un agriculteur de la commune voisine qui lui s'agrandissait, qui n'avait peut-être pas besoin de ces surfaces-là. Et j'ai été dans la situation où donc j'ai eu l'autorisation d'exploiter administrative et où le propriétaire ne m'a pas signé le fermage, donc c'est une situation assez classique, où donc je peux utiliser les terres mais je n'ai pas le fermage, donc je ne peux pas y aller. Bon, je m'égare peut-être un peu, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que sur le foncier, en fait, il y a, on va dire, 2 façons d'acquérir du foncier. Il y a soit l'achat, donc là souvent ça va passer par la SAFER, et souvent en fait les terres elles passent en dessous de ce radar-là, parce que la SAFER a quand même un rôle de redistribution du foncier, et moi en m'installant, en ayant moins de 40 ans, en m'installant avec une DGA, j'ai des rangs de priorité supérieurs par rapport à une personne qui s'agrandit ou même qui conforterait son exploitation agricole. Et le fait de passer les terres en fermage, c'est une façon de contourner ce rôle-là de la SAFER. Donc là, il y a un problème. Et pour revenir à finalement ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette colère, c'est que je pense que là, c'est une crise sociale, en fait, que le monde agricole est en train de vivre. Et ce qui s'est passé, en fait, Yannick l'a très bien dit, depuis les années 90, on est passé de plus d'1 million de paysans à moins de 400 000, c'est que les paysans ont été mis en concurrence les uns avec les autres. Ça, je pense que c'est l'ADN des politiques libérales, ou même ultra-libérales qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, du coup, les paysans sont devenus finalement prédateurs les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y avait un peu 2 choix de système, selon moi, à faire. Le choix de l'agrandissement, de s'accaparer toujours plus de foncier, de grossir, pour en gros pallier les diminutions de prix. Moins de prix, donc plus de volume. Et on voit aujourd'hui qu'on arrive à... j'ai un peu l'impression qu'on commence à toucher un peu le plafond de ce modèle, quoi. Et l'autre, c'est celui qui a été présenté, donc ce qui est fait aussi sur cette ferme, celui de valoriser les productions agricoles. Alors moi, en tant que paysan boulanger, je produis de la céréale. Forcément, en transformant la céréale en farine et ensuite en pain, je valorise plutôt ma production. Et si je vends mon pain, ce qui est le cas aujourd'hui, à 5,50 € par exemple du kilo pour du pain de campagne, grosso modo une tonne de blé me donne une tonne de pain. Donc en gros, ça fait que je vends ma tonne à 5 500, je la valorise à 5 500 €. Alors je ne suis pas les cours du marché en bio, je ne sais pas à combien ça aujourd'hui. Tu vois, j'avais même plutôt 300 € en tête. Enfin, ça s'est bien cassé la figure. Et pour moi, c'est vers ces modèles-là qu'il faut aller. Après, c'est comment on accompagne. Pour le coup, j'ai dit tout à l'heure que je m'installais hors cadre familial, mais je viens d'une famille de céréaliers. Donc je n'ai pas choisi la facilité de ce point de vue-là. J'ai grandi dans une autre région en Normandie. Et pour le coup, j'ai parlé avec mon père et j'ai été assez étonné, mais je me rends compte qu'on est assez d'accord sur ce qui se passe aujourd'hui. Et grosso modo, ce que je lui ai dit, c'est une discussion qu'on avait avec ma mère aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une partie des agriculteurs qui voudraient changer de modèle. Mais quand on s'est lancé, mon père, suite à des problèmes familiaux, il a cassé le GAEC à 3-4 ans de la retraite. Donc il a fallu reconstruire un bâtiment, racheter du matériel agricole. Il y a des investissements, on est pris à la gorge. Et surtout, c'est une prise de risque de se dire je vais passer en bio maintenant ou je vais faire autre chose. Parce que il y a le crédit à rembourser. Donc chaque mois, même si pour le coup, il y a des gros montants de PAC qui sont versés, c'est quand même une pression financière qui est très très importante. Et tout à l'heure, pareil, on parlait de PAC. La PAC, elle est très mal orientée. Alors, ça a peut-être été dit par Yannick précédemment, mais à la conf, nous, on demande une PAC à l'actif. Aujourd'hui, c'est une PAC à la surface. Et ça, pareil, il y a quelque chose d'injuste là-dedans. C'est inéquitable en termes de répartition entre un maraîcher, aujourd'hui, qui va toucher de la PAC, qui ne touchait pas avant, mais c'est des montants minimes. Il disait que sur la ferme, il touchait 10 000 euros. Donc, sur un chiffre d'affaires de 200 000 euros, ça ne représente pas grand-chose. En élevage, dans le département, beaucoup en élevage au vin-viande sont dépendants de ces aides-là. Mais n'empêche qu'elles sont quand même, par rapport aux céréaliers qui vont avoir des surfaces dans la Beauce de 500 hectares ou autre, bah, c'est quand même des montants très différents. Et on peut questionner au final l'objectif, hein, la PAC. Il y a un super documentaire qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Tu nourrir le monde, enfin peut-être un peu plus que quelques mois, et qui justement montre que la PAC, ça a été une politique qui a permis à un moment donné de se dire, suite à la guerre, il fallait relancer, entre guillemets, la ferme France, donc il fallait reproduire pour éviter d'importer notre agriculture. Et donc voilà, donc ça a accompagné ça, le fait de reproduire. Ensuite, donc c'était une première évolution agricole. Il y a eu la deuxième qui était plutôt celle... Donc la première était mécanique, la deuxième plutôt chimique. Aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'une troisième révolution qui soit agroécologique. Alors on peut parler justement de sortie du pétrole, de toutes ces choses-là. Mais ça, ça s'accompagne en fait. On ne peut pas laisser les paysans seuls face à ça. Et qu'on ait une petite ou une grosse ferme, c'est des choses qu'il faut accompagner. Et où il va falloir à un moment donné mettre de l'argent sur la table pour accompagner ce processus-là. Et c'est pas juste des aides d'urgence, ce qui a été proposé par Gabriel Attal. Hein. Enfin, dans la bio, cette année, il y en a eu besoin. Après, il y a eu deux aides. La première était plus facilement accessible. Moi, j'ai pu y avoir accès, pas la deuxième. Pour la deuxième, il fallait avoir ses comptes certifiés par un comptable. Moi, je suis au micro-bénéfice agricole, donc je ne suis pas tenu d'avoir une comptabilité. Je le fais pour moi, pour avoir une meilleure visibilité de ma ferme. Mais je suis juste obligé d'avoir en gros recettes dépenses. Et ça, le fait de ne pas avoir une comptabilité, ça faisait que de fait, j'étais exclu de cette aide. Et là, pour le coup, les montants étaient quand même bien plus conséquents. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faudrait questionner, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif politique sur la PAC, si ce n'est qu'à un moment donné, de financer un modèle agricole. Un modèle agricole qui va être fort consommateur d'intrants, qui va acheter du matériel, des tracteurs à plus de 100 000 euros. Et où là, du coup, on fait tourner un tout autre modèle que celui que Lacan, finalement, voudrait faire tourner aussi autour de l'agriculture paysanne. Parce qu'il y a nous, paysans, sur les fermes, mais il y a aussi tout le terreau autour. Et là, c'est des choses sur lesquelles on se questionne beaucoup en ce moment. Et dans des discussions qu'on a pu avoir, il y a un collègue qui a dit « Moi, je veux des voisins ». Et je trouve que c'est quelque chose d'assez révélateur. C'est que aujourd'hui, ces voisins, il y en a de moins en moins. Et ça, des voisins, si on en veut, il va falloir accompagner ce processus. Je pense que revenir à 1 million de paysans, c'est un objectif qu'il faut se fixer. Et après, pour laisser la parole à d'autres, je finis là-dessus, mais... tout à l'heure a été évoqué le nom d'Arnaud Rousseau. Alors je ne sais pas si tout le monde a bien en tête que c'est à la fois le PDG d'Avril Sophie Protel, mais aussi le président de la FNSEA, donc du syndicat majoritaire en agriculture. Je pense que dans cette grogne, il y a un détachement entre le sommet de la FNSEA et la base. Alors souvent dans les médias, on tend à opposer les paysans, les agriculteurs avec les écolos. Je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Enfin, le sujet, c'est celui de prix non rémunérateurs, c'est celui de ces accords de libre-échange qui amènent une concurrence déloyale. Et j'invite du coup les collègues des FDSEA, des JA, à se soulever comme ils le font contre le gouvernement. C'est légitime.